La marche du monde. Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission consacrée chaque semaine aux femmes et aux hommes, acteurs et témoins de l'histoire.
Les principales avenues de la capitale nous amènent vers la plus grande installation sportive du pays, le stade du Dynamo de Moscou.
Le Dynamo, c'était les forces de sécurité. Le torpedo, l'usine. Le locomotive, les chemins de fer. Et le Spartak, c'est le peuple.
Le Spartak, c'est le peuple et le Dynamo, les forces de sécurité, nous dit Nikita Simonian, ancien joueur du Dynamo sous Staline. Dynamo contre Spartak, c'est l'affrontement entre deux clubs mythiques de football dont la rivalité historique nous raconte beaucoup plus que l'histoire du ballon rond. À travers des décennies de confrontations, c'est toute la question de l'instrumentalisation du football par le pouvoir soviétique qui s'écrit dans le documentaire Football, arme du KGB, co-signé par Nicolas Jallot et Régis Janté, notre invité. Bonjour Régis.
Bonjour à vous.
Alors je salue un auteur mais aussi un confrère, correspondant de RFI dans le Caucase. Je salue aussi votre travail d'enquête qui montre au fond que le football est un sport de combat politique au temps de l'Union soviétique, symbolisé justement par ces deux clubs, le Dynamo et le Spartak. Mais qu'est-ce qui fait au fond la singularité de ce combat ?
Le Spartak, c'est l'équipe du peuple, c'est l'équipe des coopératives alimentaires. D'ailleurs, le surnom des joueurs du Spartak, c'est Miassa, la viande, parce que c'était les bouchers, etc. Et puis le Dynamo, c'est le club de la police, des flics, des moussors, les poubelles. C'est comme ça qu'on appelait gentiment les flics à l'époque soviétique. Ils méritaient un peu ce nom, il faut dire. C'est-à-dire les services secrets qui vont participer aux purges staliniennes, etc. Donc ces deux, derrière, ce sont deux conceptions de l'Union soviétique au fond. Il n'y a pas un club dissident. Le Spartak, c'est l'équipe du peuple. C'est pas un club dissident. On supporte l'Union soviétique, bien sûr, mais c'est quand même pas l'URSS de la brutalité du NKVD, etc. Donc au fond, ce sont deux visions comme ça de l'URSS.
Dynamo contre Spartak. C'est un nouvel épisode de La Marche du Monde, raconté dans le documentaire de Nicolas Jallot et Régis Janté.
Le football est arrivé ici par la mer, introduit par les marins britanniques qui ont apporté ce jeu dans différents ports des républiques soviétiques. Odessa, Saint-Pétersbourg, Poti et d'autres villes portuaires encore. Ces marins ont été les premiers footballeurs que les gens d'ici n'aient jamais vus. Des fous qui couraient partout derrière un machin rond inconnu à l'époque. C'était difficile d'appliquer des règles, car il n'y avait même pas d'arbitre et les matchs n'avaient pas de durée précise. Un match pouvait commencer le matin et se terminer au coucher du soleil. Ils couraient tous, toute la journée, sans limite de temps, et ça donnait des scores du genre 40 à 30 ou 45 à 35.
Et ça se passait au tout début du XXe siècle. La voix de David Giscariani dans La Marche du Monde, c'est lui qui siffle le coup d'envoi de votre enquête lorsqu'il donne une conférence sur Beria et le Dynamo de Tbilissi, capitale de la Géorgie. Nous sommes en 2016 et il vous donne envie, Régis Janté, de raconter cette histoire qui commence avec l'introduction du ballon rond en Union soviétique, un sport bourgeois qui va rapidement devenir très populaire en URSS, comme partout ailleurs au fond, Régis Janté.
Oui, effectivement, c'est même avant l'URSS, parce que le ballon arrive à la fin des années 1870 par les marins anglais, les investisseurs anglais, comme il est arrivé en France au Havre, comme il est arrivé à Buenos Aires en Argentine par un port, etc., etc. Et très vite, effectivement, la passion s'empare de l'âme russe ou de l'âme des Russes, comme on veut, ce qui va pas forcément faire plaisir au pouvoir plus tard, effectivement. Mais ça marche tout de suite. C'est ce que raconte d'ailleurs David Giscariani. Bon, là, il part de la Géorgie, en l'occurrence, il n'y a pas d'arbitre. Pour la Russie, c'est un peu comme cela aussi, même si le football arrive à un moment où les règles règles se sont un peu fixées déjà. Il s'est séparé du rugby. Le but, ce n'est plus une ficelle à 5 mètres quelque chose de hauteur, mais une barre transversale à 2 mètres 44, etc. L'arbitre va bientôt être sur le terrain. On commence à avoir un football presque clé en main, on va dire, en quelque sorte.
Et au fond, c'est un mouvement qui touche l'ensemble des ports du monde.
Oui, ça exactement. Et la Russie, c'est un moment où la Russie s'ouvre véritablement, puisque bon, l'esclavage a été aboli en 1861. La Russie commence à s'ouvrir au monde capitaliste, aux investissements britanniques notamment. Ils ont des usines de textiles et ce sont dans ces usines que l'on va jouer au football. D'abord les Anglais, puis les aristocrates, puis les bourgeois, puis le peuple.
Dans les années 20, Staline met en œuvre un contrôle plus grand du mouvement sportif soviétique.
Sylvain Dufraisse, sociologue du sport.
Alors certains, à l'intérieur des sphères qui dirigent le mouvement de culture physique, développent ce qu'on appelle l'hygiénisme. C'est-à-dire qu'ils cherchent à valoriser le sport comme un moyen de lutter contre les maux de la société, contre l'alcoolisme, contre la sexualité débridée, contre la violence. Le sport doit être un moyen d'éducation et un moyen de civilisation des citoyens soviétiques.
Quel est le rôle du sport, au fond, Régis Janté, dans la construction de cet homo soviéticus?
C'est exactement ce que vient de dire Sylvain Dufraisse, bien sûr, avec cette dimension un peu spécifique, c'est que le bolchevisme, c'est un matérialisme, donc c'est le corps qui compte. Et il faut dresser le corps pour mieux dresser l'esprit. Les deux sont pas vraiment dissociés dans l'idéologie. Et donc ça, c'est très important. D'où l'idée de créer un sport qui va dresser ses corps et en même temps qu'il ne soit pas bourgeois. Donc il va mettre de côté les valeurs bourgeoises du sport, comme le recordmanstvo, le goût du record, ou bien le championstvo, le goût d'être le premier. Ça, c'est bourgeois. On va essayer de créer quelque chose d'autre.
On continue la leçon de Russe avec la physkultura. C'est donc cela?
Exactement. C'est la culture physique, physkultura. Vous savez qu'on aimait beaucoup ces sortes d'acronymes en quelque sorte, donc il y en avait plein en URSS, on pouvait faire des phrases entières avec ce genre de mots, donc la physkultura, exactement, c'était le sport non bourgeois.
Et dans votre film, on voit d'ailleurs des parades sportives incroyables.
Kitsch au possible.
Mais oui, puisque au fur et à mesure de la parade, par exemple, on voit des boxeurs se déplacer, on voit des cyclistes, on voit des athlètes et bientôt des footballeurs.
Et bientôt des footballeurs aussi, on en retrouvera tout le temps d'ailleurs, on en reparlera peut-être plus tard, mais en 1937, au terme d'une tournée très importante, pour sceller cette victoire, on va créer une espèce de char de carton-pâte avec une chaussure géante pour marquer une victoire qui a été très symbolique à l'époque.
Alors vous l'avez rappelé, le football c'est d'abord un sport bourgeois et capitaliste, dont s'emparent les soviétiques, comme d'ailleurs tous les peuples de la planète, mais qu'en pense Staline ? Est-ce qu'il est amateur de football?
Staline, il n'aime pas le foot, il n'aime pas le sport, c'est pas son truc. Il va falloir que des gens aillent le convaincre que c'est important, parce que c'est une sorte de combat symbolique et que puisqu'on ne remporte pas toujours les victoires que l'on voudrait rencontrer sur le terrain de la révolution, sur le terrain du concret, de l'économie, sur la scène internationale, on va utiliser le sport qui est une manière de bluffer aussi sur éventuellement ces petits retards ou ces petits problèmes du progrès de la réalité.
Alors en Union soviétique, on rivalise sur le terrain du sport bourgeois et capitaliste. Et comme chef d'orchestre, on choisit, s'il vous plaît, le grand compositeur Shostakovich.
Thank you.
Le ballet de Shostakovitch intitulé L'âge d'or, une ode en fait au football, Régis Jonté. Comment cette œuvre musicale participe à la propagande de Staline?
On peut dire que c'est une ode au football, puisque ça tourne autour du football, mais c'est d'abord une œuvre de propagande.
Qu'est-ce que ça raconte?
Puisque ça raconte une histoire de football soviétique, probablement le Dynamo, qui va en tournée à l'étranger dans un pays qui s'appelle Fashland. Les fascistes, quoi.
L'Occident.
L'Occident,
voilà.
Exactement.
C'est
nous. Et ça raconte les mésaventures, les surprises que vont découvrir les gentils soviétiques chez les méchants fascistes, les méchants occidentaux.
Alors au sein justement de l'Union soviétique, c'est à Tbilissi en Géorgie que le premier club Dynamo a vu le jour, Régis Jonté. Mais quel est son lien historique au fond avec la Tchéka, qui est l'ancêtre du KGB? Quel est ce lien toujours entre sport au fond et puis service de renseignement?
En fait, le Dynamo de Tbilissi lui est créé en 1925, mais l'association du Dynamo est créée pour toute l'Union soviétique en 1923 par Dzerzhinsky, qui est le grand patron de la Tchéka. Et l'idée, c'est de faire que les défenseurs de la patrie, parce que c'est ça le thème obsessionnel de l'Union soviétique contre les ennemis extérieurs, puissent être en bonne forme physique. Donc au-delà de leur entraînement militaire, il faut aussi qu'on entretienne une forme physique. Et les clubs du Dynamo sont des clubs multisports. On y pratique la natation, l'athlétisme, l'escrime ou le football, par exemple.
Et celui qui prend les commandes du premier club Dynamo, c'est le jeune Beria, futur patron du commissariat du peuple aux affaires intérieures, David Jichkariani.
Beria était le fondateur, le parrain, le financeur, le supporter manager. Il participait même aux sélections. Le Dynamo de Tbilissi a fait partie intégrante de la vie de Beria.
Tous les footballeurs, et moi y compris, nous avions un grade d'officier du KGB.
Arkady Nikolaev est un ancien joueur du Dynamo de Moscou.
Oui, nous étions des collaborateurs du KGB. La profession de footballeur n'existait pas. Donc, sur mes papiers, il était écrit que j'étais instructeur, professeur de sport. Puis, quand je suis devenu un joueur de l'équipe principale, je suis devenu officier. Comme tous les autres, j'ai commencé sous-lieutenant. Puis, je suis passé lieutenant-major, et ainsi de suite. Beaucoup de mes amis sont montés en grade jusqu'au rang de colonel du KGB. Certains étaient logés dans un foyer communautaire où habitaient les hockeyeurs, les footballeurs, les athlètes et même des boxeurs.
Extrait de votre film Football, l'arme du KGB, Régis Jonté. C'est une histoire absolument incroyable. Comment faut-il s'imaginer le quotidien de ces joueurs du club Dynamo, agents du KGB?
En fait, alors certains ont été véritablement agents du KGB, et d'ailleurs dans les années 36-37, au moment des purges staliniennes, ils n'avaient plus le temps de s'entraîner, parce que fallait aller purger la société, si j'ose dire. Mais sinon, c'était simplement formel. Parce que on est soviétique, donc on peut pas être un professionnel du sport, c'est
impossible.
Alors
déjà, ça c'est la première grande différence avec l'Occident.
Effectivement. Mais, enfin, différence formelle. En réalité, on en a fait des professionnels. Mais on pouvait pas leur payer des gros salaires, etc. Donc on a trouvé des combines. On leur a trouvé un emploi fictif, officier du KGB. Si on travaillait pour le Spartak, on pouvait être officiellement le comptable de telle ou telle société, mais on n'en faisait rien du tout, en fait. On passait son temps à jouer au football. Et puis, on avait d'autres avantages lorsqu'on était footballeur. La vie n'était pas si mal, en fait, pour un sportif de haut rang. Par exemple, à cette époque, il y a un manque crucial de logements partout dans l'URSS, et chacun vit en communal. On réquisitionne les appartements, on les divise, une famille par chambre. Ce qui était l'enfer, il fallait faire la queue le matin pour avoir la salle de bain, aux toilettes, etc., la cuisine qui était toujours sale. Enfin, c'est un véritable enfer, bien sûr, 5-6 familles par appartement. Alors le footballeur, lui, on lui donnait un appartement pour lui tout seul. Donc c'était le bonheur. Éventuellement, on pouvait lui donner une voiture quand il était vraiment très bon, etc. Donc c'est de cette manière qu'on attirait aussi les joueurs dans les clubs.
Au fil du temps et au fil du durcissement du régime stalinien, on comprend que certains des joueurs du Dynamo n'ont plus comme rôle fictif d'être agent du KGB, mais ils deviennent vraiment des acteurs de la répression stalinienne. La journée, ils jouaient au foot et le soir, ils participaient à des séances d'interrogatoire, comme l'explique l'historien géorgien David Jichkariani, que l'on retrouve à nouveau dans votre film.
À
La plupart des joueurs, dans les années 20 et 30 et après, étaient des officiers du NKVD. Et la nuit, ils participaient à des enquêtes et des tortures. Cela faisait partie de leurs attributions. Quand ils jouaient au foot, ils étaient bénévoles. Le football professionnel n'existait pas et ils ne touchaient aucune rémunération pour cela. Le fait d'être tchéquiste et footballeur signifiait que l'on faisait une belle carrière dans le NKVD et le KGB. Comme par exemple Pachulia, qui a été footballeur et entraîneur du Dynamo de Tbilissi avant d'être nommé commissaire des affaires intérieures d'Abkhazie. Il est à l'origine de nouvelles méthodes de torture, de différents traitements inhumains pour les prisonniers. Il était totalement dévoué à Beria. C'était un parcours courant, normal à l'époque soviétique.
Pachulia, alors pour ceux qui ne sont pas spécialistes de football, comme moi d'ailleurs, je l'avoue, Régis Janté, rappelez-nous qui est ce grand joueur en Géorgie.
Pachulia, c'est quelqu'un qui va être, donc il joue au Dynamo de Tbilissi, puisque Beria, qui sera plus tard appelé à être le bras droit de Staline, il est géorgien comme lui d'ailleurs, forme une équipe autour de géorgiens. Le Dynamo de Tbilissi vient un peu le porte-drapeau de la nation géorgienne en quelque sorte. Pachulia joue bien au football, il est intégré dans le club. Mais au moment où la politique, la répression aussi, et le football sont mêlés, au moment où Pachulia va arrêter sa carrière de footballeur, eh bien il est recruté comme agent du NKVD et même il prend en charge cette région d'Abkhazie qui est une région de Géorgie où Beria est né, qui est un peu délicate, et là il va utiliser les méthodes habituelles de Beria, c'est-à-dire d'une brutalité inouïe.
Au fond, Beria joue un double jeu, c'est-à-dire qu'à la fois le football pour lui c'est une façon à travers ses agents d'avoir une mainmise sur la population, et en même temps il prend le risque d'être dépassé par les fans. Encore une petite leçon de russe, comment on dit fan en russe?
Fan, fanati.
Fanati, voilà.
Oui, c'est ça. Beria, c'est un monstre pour un historien, pour un biographe, parce que c'est le bras armé du bolchevisme. Il va envoyer probablement des centaines de milliers de personnes au goulag. Il va être l'homme qui va déporter des peuples entiers, comme les Tchétchènes ou les Messrètes, par exemple. Et en même temps, c'est quelqu'un qui n'a jamais véritablement cru dans le bolchevisme. Alors, la Géorgie, c'est son fief. C'est là qu'il commence sa carrière. Il va essayer d'asseoir son pouvoir, d'avoir beaucoup de gens qui lui soient loyaux, et c'est pourquoi il va s'appuyer sur, je pense, sur une forme de nationalisme, et il comprend l'intérêt du football pour cela, c'est une des composantes de cela. En 1935, il fait construire un stade, il est encore toujours à Tbilissi, il n'est pas encore monté à la capitale soviétique, ça sera en 38, ça, à Moscou, pour prendre en charge tout l'appareil sécuritaire. Il construit ce stade en 35. En 37, il le fait rebaptiser Lavrenti Beria. Chaque week-end, ou chaque 15 jours, vous avez 35 000 Géorgiens qui sont toujours un peu chauvins, comme on disait à l'époque soviétique, qui sont nationalistes, patriotes en tout cas, qui vont voir l'équipe du Dynamo de Tbilissi dans le stade Beria.
Une popularité servie par le talent des joueurs.
Le match se termine par la victoire du Dynamo.
En vérité, le football était toute ma vie. Pour avoir des billets pour accéder au stade, les gens faisaient la queue toute la journée et toute la nuit pour pouvoir assister au match. Mais moi, j'avais un pass. Et j'étais très fier de pouvoir assister à toutes les rencontres quand je le voulais. Les joueurs du Dynamo de Tbilissi étaient vraiment très très populaires. Et pas seulement en Géorgie, mais dans toute l'Union soviétique. Parce qu'on assistait à un vrai beau spectacle. On les appelait les Uruguayens ou les Brésiliens. Parce qu'ils jouaient de manière originale, particulière. On peut même dire artistique. Boris Paichadze était surnommé Caruso, le Caruso du foot.
Alors à l'époque, Régis Jonté, ce n'est pas les Brésiliens qui tiennent le haut du pavé, ce sont les Uruguayens, ça se passe quand même en Amérique latine.
Effectivement, et ça va être une manière pour les Géorgiens, c'est sans doute en partie réel, et c'est aussi de la représentation, de se distinguer du jeu froid de Moscou, discipliné, surtout celui du Dynamo, et on va cultiver un jeu artistique, un jeu d'improvisation, un jeu du risque, de l'attaque, et qu'on va donc se comparer, on va être comparé aux grands Uruguayens qui ont été champions du monde en 1930, si je ne m'abuse, et puis une deuxième fois en 1950, je crois. Enfin bref, ce sont les grands champions de l'époque et on s'identifie à cela. Et ce qui est amusant aussi, c'est qu'on fait un parallèle avec la musique. Comme le Brésil d'aujourd'hui, on ne peut pas penser Pelé sans la samba.
Sans la samba, c'est pas clair.
Possible. Eh bien, en Géorgie, c'est pareil. On a même un peu plus tard des espèces de petits calendriers, par exemple, où chaque footballeur est habillé en tenue traditionnelle de danseur géorgien, parce qu'il y a beaucoup de danse dans le Caucase. Et c'est ce que dit d'ailleurs Gouram Tsriladze, ce supporter. Il a vu son premier match en 1940, il n'en a plus manqué un quasiment après. Et par exemple, il montre que Boris Paichadze, qui reste le grand joueur dans le cœur des Géorgiens, est comparé à Caruso, en l'occurrence un chanteur d'opéra italien très célèbre à l'époque.
Et on l'entend d'ailleurs dans votre documentaire Football, arme du KGB, grâce auquel nous découvrons comment l'Union soviétique de Staline s'approprie le football, sport capitaliste et bourgeois par excellence. Mais c'était sans compter la création de l'équipe du Spartak.
Les frères Starostin, c'est une véritable épopée. Ce sont des personnages légendaires. Ce sont eux qui ont lancé le football en Russie après la guerre civile, dans les années 1920. Ils ont inventé, créé au sens propre du terme, et même organisé tout le club du Spartak. Le Spartak était vraiment une équipe du peuple. Elle a été vraiment aimée et elle l'est encore aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'elle n'appartient à aucun ministère.
Nous y voilà la saga des frères Starostin. Alors qui sont-ils, Régis Jonté ? On veut tout savoir.
Vous me donnez une heure. Ce sont un peu les pères fondateurs du football. Ce qui m'a fasciné en écrivant ce livre et dans ce documentaire, c'est de revoir leur histoire. En fait, ce sont des types qui sont des fous de foot. C'est tout. Et ils vont devoir traverser avec cette passion... avant l'époque, juste avant la révolution bolchévique, ce qui est quand même pas une époque tout à fait simple, la révolution bolchévique en 1917, la première guerre mondiale, la guerre civile en Russie, puis la NEP, vous savez, ce moment où on restaure un peu le capitalisme, qui va être un beau moment pour eux, et puis après, le dur de l'Union soviétique. Ils vont traverser tout ça avec une seule passion, le football.
D'où sortent-ils ? De quel quartier ? De quelle ville ?
Alors, ce sont des gens qui viennent de l'extérieur de Moscou. On parlait de cela tout à l'heure, c'est l'époque, le début du siècle, où la Russie s'urbanise, s'industrialise, et donc il y a un fort exode rural. Ils viennent de Pskov, à peu près à 700 km de Moscou. Ce sont des vieux croyants. Donc je ne vais pas entrer dans le détail des histoires religieuses russes, mais voilà, une partie, on va dire, de l'église très conservatrice russe, et de parents plutôt commerçants. Ils se sont installés dans le quartier d'Apresnaya, où il y avait certaines usines de tabac, de textiles qui étaient construites à l'époque, dans des quartiers de fortune, en quelque sorte. Aujourd'hui, ce sont des quartiers très très chics de Moscou, près des étangs du Patriarche, est-ce que ça vaut vraiment très très cher. Mais à l'époque, ce sont vraiment les rues boueuses, poussières, heureuse et mal fréquentée, mal famée. On a des quartiers de bandits, etc. Et c'est là-dedans qu'ils vont se débrouiller, toujours trouver un peu d'argent. Ce sont aussi des rois de la débrouillardise, les Starostin.
Voilà, parce que Régis Jonté, vous dites, les frères Starostin, non seulement... ce sont des footballeurs nés, mais en plus ce sont des impresarios du foot.
Effectivement, parce que on est dans une époque où l'argent va circuler différemment. Avec la révolution bolchevique, c'est fini, le capitalisme, enfin, officiellement en tout cas, et eux vont devoir pour assouvir leur passion, eh bien trouver de l'argent, trouver un terrain, trouver une manière d'attirer des joueurs, de leur donner le loisir de pouvoir devenir les meilleurs. Donc ce sont vraiment des rois de la débrouillardise, ce sont des impresarios qui vont inventer les matchs amicaux de gala pour récolter quelques fonds, etc., etc.
Alors vous dites, ils flirtent avec la mafia, ils boivent du champagne, ils dansent le foxtrot, ils ne sont pas vraiment dans la ligne du parti. Et leurs supporters, finalement, quand ils viennent les soutenir, ces joueurs du Spartak au stade contre Dynamo, par exemple, c'est l'expression d'une contestation d'un seul coup.
Ça va le devenir petit à petit, un peu plus tard à vrai dire. Au départ, c'est juste cette passion du football, ils veulent gagner et ils vont aller ça va aller très loin parce qu'ils vont réussir à pousser le pouvoir, à abandonner la fiskultura dont on parlait, cette expression du sport purement soviétique, sans la gagne, hors des circuits habituels du sport bourgeois, et eux vont plaider pour, parce qu'ils veulent aller défier les Occidentaux, pas pour des raisons politiques, juste parce que ce sont les meilleurs. Et là, finalement, ils vont arriver à pousser Staline lui-même, finalement, à accepter cela, à accepter qu'on joue contre les bourgeois, et pour pouvoir rivaliser, parce qu'il n'est pas question de perdre, ce serait le symbole de l'infériorité, eh bien, du projet bolchevique, eh bien, ils vont même pousser à ce qu'on change la méthode de jeu.
Alors dans le match mené en sous-main par Beria, donc vous l'avez dit, celui qui va devenir le bras droit de Staline, tous les coups sont permis.
Sur le stade du Dynamo, aujourd'hui on rejoue la demi-finale de la Coupe de football de l'URSS.
1939, Beria dit non, pas cette année, le Spartak ne gagnera pas. Et cette année-là, c'est le Dynamo de Tbilissi qu'affronte le Spartak en demi-finale. Le match est serré, mais le Spartak l'emporte 1-0. La finale contre Leningrad est aussi remportée par le Spartak. Mais voilà qu'en coulisses, Beria s'active encore et fait rejouer la demi-finale après la finale, sous prétexte que le but du Spartak n'était pas valable. Et comme deux précautions valent mieux qu'une, il fait arrêter l'arbitre du premier match, Ivan Gorelki. Le jour J, Paichadze fait pression devant le gardien et se démène comme un beau diable. Mais le Spartak résiste. Le football est un sport qui se joue à 11 contre 11. Et à la fin, c'est toujours le Spartak qui gagne. 3-2. Et Beria est furieux. Tout Beria qu'il est, il n'a d'autre choix que de se plier au protocole et la semaine suivante, remettre la coupe au Starostin. Les joueurs du Spartak soulèvent le trophée sans triomphalisme. Ils pensent au chef des jeunesses communistes, Kossarev, leur protecteur, qui récemment encore pavoisait aux côtés de Staline. Beria l'a fait fusiller il y a quelques mois, le 23 février 1939. Le Spartak agace le pouvoir soviétique. Pour Beria, c'est la coupe qui fait déborder le vase.
Cette histoire est absolument incroyable, en même temps tellement emblématique du pouvoir de Beria en Union soviétique. Elle nous dit beaucoup de choses sur la détermination des joueurs du Spartak, mais peut-être encore plus sur le pouvoir de Beria.
Oui, effectivement. Mais avec certaines limites aussi, puisque finalement, il est obligé d'intriguer dans les coulisses. Finalement, le match a lieu, sans pression, semble-t-il. Le Spartak gagne cette deuxième demi-finale, rejouée après la finale. Il gagne 3-2 à la régulière. Cette fois-ci, aucun but n'est contestable. Et c'est lui-même, d'ailleurs, comme c'est dit dans l'extrait qu'on vient d'entendre, qui va remettre la coupe au Starostin. Donc, on est entre deux, effectivement. Et puis, il y a une autre dimension dont on n'a pas parlé là, mais c'est que si Beria ne peut pas, il fait beaucoup effectivement, il fait tout ce qu'il peut pour remporter, pour que son cher Tbilissi remporte cette coupe. C'est aussi que l'autre match, c'est que probablement Staline est très méfiant à l'égard de sa Géorgie natale à lui aussi. Et il faut savoir par exemple que les 22 premiers championnats de l'Union soviétique ont été remportés par des équipes moscovites. Et que Beria a essayé de placer Tbilissi, mais il n'y parvient pas finalement. Et c'est pas par hasard si les 22 premiers championnats sont remportés par Moscou. C'est une manière aussi de faire en sorte que les républiques de l'Union, avec des groupes ethniques différents, les Géorgiens, les Ukrainiens, ne soient pas trop forts politiquement aussi. C'est très important, mais c'est toujours dans le non-dit.
En tout cas, la patience de Beria a ses limites. Et vous avez retrouvé la fille de Nikolaï Starostin, la star du Spartak. On l'écoute.
Бери очень Beria n'appréciait pas du tout la popularité du Spartak, et en particulier la popularité des frères Starostine, et cela a provoqué leur arrestation. J'ai été réveillé en pleine nuit par la lumière d'une lampe torche dans les yeux. Ils sont venus les arrêter dans la nuit du 21 mars. Les frères ont beaucoup souffert pendant l'emprisonnement. La principale torture était l'insomnie. Il les empêchait de dormir. Piotr, lui, a été très fortement battu. Papa nous a écrit, nous avons eu de la chance, nous n'avons pas été fusillés et nous sommes très contents. Il nous semble que 10 ans est une peine très clémente. Papa est resté un peu plus d'un an au camp d'Ourta et il entraînait l'équipe du camp et l'équipe locale. Il avait là un traitement de faveur. Mais ensuite, il a été transféré sur ordre de Moscou en Extrême-Orient. Mais partout, le foot l'aidait. Car partout, il avait des supporters. Et le directeur de cet autre camp de Sibérie était aussi un grand amateur de foot.
L'émouvant témoignage d'Elena Starostina, la fille de Nikolaï, de la fratrie des stars du football du Spartak, les Starostine. Déportés au goulag, mais alors pourquoi Beria choisit de les laisser en vie?
Peut-être parce que ce sont des stars. Peut-être, effectivement. Il y a toute une rivalité qui se joue autour d'eux, notamment avec le fils de Staline, qui est quand même le fils de son père, c'est pas rien, et qui va entrer dans une rivalité avec Beria, parce que lui aussi est un dingue de foot. Il va créer d'ailleurs son équipe, il est le patron très jeune des forces de l'armée de l'air, et il crée une équipe de sport sous les forces de l'armée de l'air, et un peu plus tard...
Concurrente aux équipes de Beria.
Concurrente, effectivement, des équipes de Beria. Et donc, Beria ne peut pas se permettre de faire tout ce qu'il veut avec lui. Il y a une vraie rivalité qui va plutôt tourner à l'avantage de Beria, parce qu'il faut savoir que le fils de Staline, quelques années plus tard, en 1948, ils sont arrêtés en 1942, hein, les quatre frères Starostine. En 1948, Nikolaï reçoit un appel téléphonique dans la nuit, je crois. C'est Staline au téléphone. Staline, le fils, ah bon. Et en fait, il dit, je t'envoie un avion, demain matin, tu montes dans l'avion, tu viens jouer pour mon équipe. Et le lendemain, il se retrouve à Moscou pour devoir jouer. Sauf que Beria s'en rencontre, il y a tout un jeu, c'est d'un rocambolesque.
Absolument.
Où Beria le fait réarrêter, et puis Staline, le fils Vassili, essaie de le faire libérer, etc. Enfin bref, donc c'est probablement pour
ça. Par résultat des courses, Nikolaï Starostine retourne au goulag.
Oui, c'est Beria qui gagne en ce sens. Mais vous voyez, avec Staline, avec le fils de Staline, sur le coup, si j'ose dire, il ne pouvait pas se permettre quand même de le faire fusiller. Je crois que c'est pour ça.
Donc ils restent en vie, les frères Starostine, mais ils sont bien au goulag pendant la Seconde Guerre mondiale.
Quand la guerre a éclaté, les joueurs du Spartak étaient soit en prison, soit ils ont été enrôlés dans l'armée pour aller au front. Mais les joueurs du Dynamo, eux, ils ont été envoyés chez les partisans où ils accomplissaient, bien entendu, des exploits miraculeux et héroïques. C'est donc le Dynamo qui a donné naissance aux sportifs héros.
La voix d'Igor Fein, un ancien chroniqueur de foot à l'époque de l'URSS que vous avez retrouvé, Régis Janté, qui nous explique ce concept du sportif héros, encore une invention de l'Union soviétique.
En quelque sorte, oui. Alors, c'est un héros spécial parce que le héros sportif en tant que tel, avant-guerre, on n'en veut pas, puisque ça, c'est anti-bolchevique. Là, c'est le héros associé à l'image de la guerre, avec cette spécificité, que, et ça montre combien le sport est hautement important que les grands sportifs ne sont pas allés au front. Enfin, ceux des équipes du Dynamo, comme Igor Fein vient de l'expliquer. Parce qu'on veut s'en servir pour la propagande intérieure, pour soutenir le moral des troupes et de la population, parfois à Moscou, voire même plus profondément dans les terres.
On n'en voit pas Marilyn Monroe comme aux États-Unis, comme les Américains, on en voit les joueurs du Dynamo.
Exactement. Et on organise tout un tas d'événements autour d'eux. Et encore une fois, ça dit vraiment beaucoup de l'importance du sportif et de ce héros. Mais ils ne sont pas allés sur le front, ils n'ont pas fait la guerre.
Alors on entend bien depuis le début de cette émission Dynamo contre Spartak, la dimension légendaire et mythologique de cette histoire, Régis Jonté. Et vous avez essayé de démêler le vrai du faux, notamment à travers cette fameuse légende du match de la mort.
Effectivement.
De quoi s'agit-il ?
Effectivement, c'est un match qui a lieu en août 1942 en Ukraine. Ukraine qui a été reprise par les Allemands, par les nazis, par la Wehrmacht. Et là aussi, on utilise le sport comme arme de propagande. Parmi d'autres choses, il y a des opéras, il y a de la culture, etc. Mais par exemple, pour célébrer la libération, entre guillemets, de telle ou telle ville, de telle ou telle région, les Allemands organisent un match pour réjouir le peuple, expliquer que c'est une libération et non pas une occupation, etc. Et en 1942, on a organisé un championnat avec 6 équipes, 2 ukrainiennes et 4 équipes des forces d'occupation aux côtés des nazis. Donc il y a une équipe allemande de la Luftwaffe, de l'armée de l'air de la Wehrmacht, de l'Allemagne, et puis des Roumains, des Hongrois, etc. Et il y a ce match qui se déroule en réalité assez normalement. Les Ukrainiens gagnent 5-3. On se serre la main à la fin du match. On prend une photo qu'on peut encore trouver d'ailleurs sur Internet. Et puis voilà.
Mais c'est pas du tout l'histoire que les gens vous ont raconté ça.
Absolument. Alors ce qui se passe, c'est qu'au moment où l'URSS reprend possession de Kiev, qui est aujourd'hui la capitale de l'Ukraine, ils apprennent cette histoire, ils disent qu'est-ce qu'on fait ? On va fusiller ces joueurs, ils jouent avec les Allemands, ils ont collaboré. Et puis d'autres personnes, des écrivains notamment, se disent mais non, il y a un potentiel pour raconter une histoire, une légende complètement fausse, mais qu'importe, ce qui compte c'est l'efficacité de la politique. Et ce qu'on fait, c'est qu'on invente, c'est qu'à la mi-temps du match, un officier allemand serait venu en disant aux Ukrainiens, vous êtes en train de gagner 3-1, si vous gagnez ce match, on vous fusille tous. On dit que c'est ce qui a été fait. Pour mettre en scène tout ça, il y a eu des articles, il y a même eu un film qui a eu 33 millions, je crois, de téléspectateurs à l'époque soviétique, qui s'appelle Triety Time, la troisième mi-temps. Mais en réalité, effectivement, des joueurs ont bien été fusillés dans les mois, les semaines et les mois qui ont suivi le match, mais pas à cause du match, pour de toutes autres raisons qui sont liées à l'occupation de cette raison. Ensuite, les soviétiques ont organisé des cérémonies, des commémorations, et les joueurs qui étaient censés être fusillés n'étaient évidemment pas invités puisqu'ils étaient morts, ils ne pouvaient pas venir officiellement.
C'est ça. Mais comme l'évoque cette archive de l'INA, tout a une fin, même la dictature stalinienne.
Прощай, наш учитель и вождь, наш дорогой друг, родной товарищ Сталин. Le 5 mars. À 9h50 du soir, après une grave maladie, est décédé le président du Conseil des ministres de l'URSS, secrétaire du Comité central du Parti communiste de l'Union soviétique, Joseph Vissarionovitch Staline.
Nous sommes en 1953, Staline meurt et les communistes dans le monde entier pleurent. Qu'est-ce que ça change pour le football soviétique, Régis Jonté ?
C'est tout qui va changer pour le football, c'est pas immédiatement un changement, je crois. Ce qui va peut-être changer, c'est que les loisirs vont commencer à prendre leur place dans la société soviétique. Avec Khrouchtchev, donc dans les années 50 et 60, et commence à souffler les soviétiques. Parce que les années de Staline, ce sont des années de famine. Il y a des millions de morts en Ukraine, au Kazakhstan, au Caucase russe, etc. Ce sont des années de purge, ce sont des années de déportation de peuple.
20 millions de déportés, voilà. Au goulag.
Et Khrouchtchev va changer cette ambiance, va restaurer, effectivement, va introduire les loisirs dans la vie des soviétiques. On va les laisser souffler en quelque sorte.
Pour prouver la supériorité de son système et de son idéologie, l'Union soviétique a besoin de succès, de victoire. les Jeux Olympiques représentent désormais le Graal à atteindre. Nikita Simonian, le buteur du Spartak, est l'attaquant vedette de l'équipe nationale. Il se souvient de ces Jeux de Melbourne.
La dimension politique était toujours présente. L'objectif pour 1956 était de gagner à tout prix et de devenir champion olympique. La pression était vraiment très forte. On nous disait tout le temps, vous devez avoir conscience que vous représentez l'Union soviétique. Vous n'avez pas d'autre choix que d'être les meilleurs, de gagner.
Alexis Paramonov et Nikita Simonian ont pris le relais des frères Starostin et maintenant se préparent pour leur match le plus important, la finale des Jeux Olympiques à Melbourne.
Ah, c'était impressionnant. Nous avons gagné. Après, pour rentrer de Melbourne, nous avons pris un bateau jusqu'à Vladivostok. Le bateau s'appelait le Géorgie. Et ça nous a pris 20 jours et encore 8 jours pour revenir à Moscou. Toute l'équipe olympique voyageait dans deux trains. Aux arrêts dans les gares, les Sibériens demandaient « Les footballeurs sont dans quel wagon ?»« Là-bas, dans le premier wagon. » Ils nous donnaient des seaux d'alcool et ils disaient « Ça, c'est pour vous, les gars. »
Fêté en héros dans tout le pays, l'équipe soviétique devient une grande nation du football mondial.
Et c'est aussi ce passé glorieux d'une Union soviétique conquérante en pleine guerre froide que nous retrouvons sur l'affiche officielle de la Coupe du Monde 2018. La Russie de Poutine convoque l'Union soviétique d'après Staline et son gardien de foot vedette, Lev Yashin.
Yashin, c'est la classe internationale en foot. Et en plus, il a été reconnu officiellement. C'est quelqu'un qui a tout réussi par ses propres moyens. Il était ce que les Américains appellent « self-made person ». Il ne s'est jamais entraîné nulle part. Il jouait dans les cours d'immeubles, dans les banlieues de Moscou, sur les parkings des usines.
Nous voyons ici la passion que suscite le football depuis les Jeux de Melbourne. Dans les équipes des cours d'immeubles, il y a leur Yashin ou Simonian. Et parfois, la balle ne part pas là où il faut.
Il était doué pour le sport, spontanément. Et il a commencé à jouer au hockey. Car c'était le sport le plus populaire en Union soviétique et à Moscou. Il était déjà gardien de but et il a même remporté la première coupe du RSS de hockey sur glace avec le Dynamo de Moscou.
Il est érigé comme un modèle de citoyen soviétique.
Sylvain Dufraisse, sociologue du sport.
Un homme investi au service du collectif, un homme modeste.
Au XXIe siècle, comment expliquez-vous ce choix officiel de la Russie, pays organisateur de la Coupe du Monde de football 2018, de cette esthétique complètement rétro, symbolisant l'Union soviétique, avec cette figure, certes historique, du football soviétique, mais quand même du football soviétique et non pas russe, Lev Yashin, Régis Jonté.
Ce qui anime Poutine, c'est véritablement la question de la puissance. Il veut que son pays, sa puissance, redevienne une puissance. Et finalement, Yashin, sont les années 60, c'est l'époque où l'URSS rattrape plus ou moins les États-Unis. En tout cas, formellement, on a l'impression que c'est un match URSS-États-Unis. C'est une époque de puissance. À cette affiche de style constructiviste, où on voit Yashin, il attrape une balle et en fait, sous le cuir qui se déchire, on voit apparaître le globe. Donc, dans la main d'Yashin, vous avez la terre. Et la puissance, elle est là, évidemment. Et puis, il y a un clip, un petit clip qui est associé à cette affiche.
Que nous pouvons d'ailleurs regarder sur la page Facebook de la Marche du Monde.
Absolument. Et qui fait référence à Gagarine. Et Gagarine, c'est le premier russe qui est allé dans l'espace. Donc, c'est vraiment l'idée de la conquête, de la grandeur de la Russie qui est à la tête du monde aux côtés des États-Unis. Ça, c'est le grand fantasme de Poutine. Poutine, si j'ose dire.
Donc, et ce qui est très intéressant, c'est que du temps d'Union soviétique, en quelque sorte, il y avait cette bataille intérieure et cette instrumentalisation du sport, du football, pour à la fois contenir les masses et puis pour en même temps se réapproprier un sport dit bourgeois et en faire un sport soviétique. Et puis finalement, après la mort de Staline, 56, c'est Khrouchtchev, le rapport Khrouchtchev, il y a une forme d'ouverture, et là, la bataille, elle se fait dans le cadre de la guerre froide entre l'Union soviétique et les États-Unis. On joue à l'extérieur.
Effectivement, et dans le cadre symbolique aussi, puisqu'on ne veut pas aller à l'affrontement. La guerre froide, c'est un affrontement par procuration, et en tout cas, ce n'est pas un affrontement direct, bien sûr. Et
ou donc, alors dans l'espace.
Ou alors dans l'espace. Et c'est exactement cela que veut montrer Poutine. Au fond, Poutine est dans la même quête que Khrouchtchev et que Staline avant, d'ailleurs, qui est de se mesurer à l'étalon de la puissance que sont les États-Unis pour lui.
Merci Régis Jonté d'avoir partagé avec les auditeurs de RFI votre film documentaire Football, arme du KGB, réalisé par Nicolas Jallot. Et je recommande vivement votre livre, également coécrit avec Nicolas Jallot. Ça se lit comme un thriller, ça s'appelle Football, le ballon rond de Staline à Poutine. Et c'est aux éditions Alary. Ainsi s'achève Dynamo contre Spartak, un nouvel épisode de La Marche du Monde réalisé par Hugo Violas avec la complicité de notre stagiaire Juliette Flamand. Encore plus d'informations, de photos et de vidéos à découvrir sur les pages internet et Facebook de La Marche du Monde. Écrivez-nous, réagissez, podcastez cette émission, c'est la vôtre.
Камашевис сепсевкеби, камашевис симгереби, кулин да вичеро. Шкиакас тепставелепс плавац белджела сахеле, сакартвело бичебо. Шел сиакнепс архевс кари, медивит на перцкали, усиагаретева.
Moi je vous laisse commenter ce que vous proposez à nos auditeurs entre leurs oreilles là tout de suite comme morceau de musique.
C'est une sorte de chanson assez improvisée, vous voyez qu'elle n'est pas d'une grande qualité non plus, qui a été écrite et chantée en 1981 lorsque l'équipe du Dynamo de Tbilissi va gagner la Coupe des Coupes de l'Europe. Et ça va être un grand moment pour la nation géorgienne. C'est une grande victoire nationale, au-delà du sport bien sûr.
Et le titre de cette magnifique chanson, Régis Jonté ?
Ce sont les gars de Géorgie, et effectivement, c'est bien ça qu'il s'agissait de célébrer. Au lendemain de cette victoire, Brejnev avait tout de suite compris l'enjeu politique de ça en disant « mais c'est une victoire de toute l'URSS », pendant que des joueurs géorgiens disaient « non, non, c'est la Géorgie qui a gagné ».
Autant c'est possible.
Balchoï.
Dynamo, 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 Dynamo,
Indi, 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 martas, indi, urti ronga idamo. Quella peri ahla sadeba, kamarjo bisha mitgeba, kamarjo ba dinamo. Sul patarasi harulit, sul patarasi buarulit, zechamodis cidano. Sakartvelos sadidevlat, kamarjo ba, dinamo, dinamo. Dinamo, 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 Vicevo, 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 Vicevo,